Chapitre 24. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici de Regina, je ne l'ai su que plus tard par elle, mais cela était nécessaire à dire pour donner une signification à la visite inattendue que je venais de recevoir au fond des forêts de la Bourgogne, et un sens aux lettres de Saluce que j'ai conservées et dont je copie ici quelques fragments. Ces lettres donnent pour ainsi dire l'envers et la suite de la passion de cet enfant, passion née d'un rêve et devenue par un hasard une déchirante réalité. Je copie ici littéralement les lettres de Saluce, me bornant à quelques suppressions et à quelques corrections de style qui n'enlèvent rien à la vérité et qui n'ajoutent rien à la passion. Saluce écrivait mieux que nous tous à cette époque, quand il voulait réfléchir sa pensée ou quand il était ému. Son éducation, moitié anglaise, moitié italienne, lui donnait un accent étranger et des ressources d'expression qui manquent trop souvent aux hommes d'une seule langue. Première lettre. Rome. Si tu étais ici, rien ne me manquerait. Il faut deux âmes pour embrasser Rome, je n'en ai qu'une et je ne sais pas si je l'aurai longtemps. J'ai peur qu'elle ne m'ait été enlevée dans un regard comme à mon héros de l'Arioste, et qu'au lieu d'avoir été emportée dans une étoile, elle ne soit restée dans les deux plus beaux yeux qui aient jamais reflété ce beau ciel d'avril ici. Ohime, c'est une exclamation de langueur italienne. Ohime, ma pauvre sœur ne m'en avait pas trop dit. Ohime, miserome, poverome. Toutes les interjections du Trunstevere ne suffiraient pas à évaporer ce qui m'oppresse. Tu m'as connu peu poétique, je le suis plus que toi cette nuit, car je t'écris au lieu de dormir. Ma pensée n'est pas en moi, elle n'est pas non plus dans cette belle poésie du Guido qui me regarde, ou plutôt qui regarde le ciel du fond de cette longue galerie qu'habitait mon oncle et où il entassait ses trésors de peinture. Non, non, la poésie que j'ai vue aujourd'hui vit, marche, palpite et parle. Et quelle vie et quelle démarche! Et quelle palpitation dans le sein! Et quelle mélodie sur les lèvres! Et quelle larme transparente sur le globe des yeux! Ô Guido Reni, tu as bien rêvé, mais la nature rêve plus beau que toi. Tu dois penser que je suis devenu fou, comme cela m'est arrivé parfois de quelque toile de Raphaël, de la Galatée, de la Farnésina, ou de quelques pages de roman anglais ouvert sur ma table, et que je me fais, comme nous faisions autrefois ensemble, un filtre de caprice pour m'enivrer, quitte à briser la coupe après ou à jeter mon anneau à la mer comme le dégoûté de Samos. Non, 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 ce n'est pas cela, c'est elle. Et elle qui, me dis-tu, elle qui est, selon l'expression mosaïque, elle dont je te parlais à Paris, elle dont me parlait ma sœur dans toutes ses lettres, tant on obsédait de ce nom et de ses perfections mes yeux et mes oreilles. Elle que j'appelais ma seconde sœur, tant ma sœur et elle s'étaient identifiées dans mes pensées. Elle, enfin. Tu sais maintenant qui je veux dire. Eh bien, ma sœur elle-même était aveugle, mon ami. Elle m'a rappelé un vers de toi dont je ne me rappelle que le sens. Son ombre contient plus d'électricité que le corps d'une autre. Mais je te tiens trop longtemps en suspens. C'est que j'ai la fièvre. Tiens, prends et lis, comme dit Talma. Je ne savais plus ce qu'était devenu cet enfant merveille dont m'entretenait sans cesse Clotilde jusqu'à la veille de sa mort. Je la croyais envolée je ne sais où, à un des quatre vents du monde, bien loin du nid. Je n'y pensais plus. Je pensais à l'âme de ma pauvre sœur envolée, celle-là, en notre absence, sans aucun doigt pour lui montrer la route, sans aucune voix chère pour l'encourager au départ. Et je me disais tous les soirs en me couchant, dans ces grandes salles où nous avions tant joué ensemble et qu'elle remplissait de sa belle voix, il faut pourtant que j'aie le courage d'aller voir de mes yeux la pierre de la chapelle où elle a été couchée par des mains étrangères. Il faut que je voie ce cloître, ces jardins mornes, cette cellule, cet horizon de cyprès, de pierres et de briques qu'elle a vu si longtemps, en pensant à nous et qu'elle m'a si bien et si souvent décrit qu'il me semble que j'irais les yeux fermés. Et puis, quand le jour venait, je sentais un tel serrement de cœur, un pied si résistant à cette rue, que je disais « Non, pas aujourd'hui. Je ne me sens pas assez fort, assez calme ou pas assez sain pour causer de si près avec une âme. Deux fois même j'ai passé par la Longara, en revenant de Saint-Pierre comme pour m'apprivoiser peu à peu à l'idée, à la maison, à la tombe. Une fois même, j'ai levé la main pour sonner à la petite porte du couvent, puis j'ai baissé le bras et je me suis sauvée, comme si j'avais eu peur qu'on eût aperçu mon geste et qu'on ne vînt m'ouvrir. Enfin, tu sais tout ce qui se passe de contradictions, d'enfantillages et de superstitions dans nos âmes quand elles sont seules. J'ai laissé passer un mois, puis un autre, puis la moitié d'un autre, sans oser y aller. Mais j'avais le projet. Je dis j'avais hier, car aujourd'hui je ne l'ai plus. J'avais le projet de partir pour la Sicile, où mon père a un vieil ami anglais qu'il m'a recommandé de voir. Je n'avais pas au palais la moindre relique de Clotilde, un cheveu, un bijou, un ruban, une robe, rien. Tout était resté au couvent après sa mort, à ce que me disait le concierge du palais de mon père. Je ne voulais pas absolument quitter Rome sans emporter un talisman de cet ange sur moi. Tu sais que je ne suis pas superstitieux comme les enfants de mon pays de Bretagne, mais je suis mémoratif et fidèle comme eux. Dans la relique, ce n'est pas la relique que j'aime, c'est la pensée. Je ne sais pas si la pensée ne s'incorpore pas jusqu'à un certain point dans la chose matérielle et ne lui communique pas non une vertu secrète, mais un signe présent et visible de vertu, une émanation de l'être absent qui imprime à l'objet donné en souvenir une continuité de présence, d'amour, de protection. Je divague, mais c'est égal, je ne me fais pas avec toi plus surhumain que je ne suis. Bref, je voulais une présence réelle de ma pauvre sœur sur le cœur, au cou, au doigt, dans mon portefeuille. Il fallait aller demander cette relique où elle était. J'ai pris mon courage dans mon désir, et j'y allais. Mais 3 heures du matin sonnent à Saint-Pierre, je t'ennuie, c'est égal encore, je continue. Je ne puis pas dormir, il faut que j'écrive, tu ne liras pas si tu veux. J'y allais donc, et quand? Y a-t-il un siècle? En vérité, il me semble qu'il y a un siècle et que l'image qui est en ce moment dans mes yeux, quand je les ferme, y a toujours été. Eh bien, il y a la moitié d'un jour et la moitié d'une nuit. Autant tu n'existes pas. Tu n'es que le vide de ce qui n'est pas encore, attendant ce qui doit être. Aussitôt que ce vide est rempli, il n'y a plus de temps. À quoi mesurer ce qui n'est plus? Donc j'allais, à 2 heures après-midi, par un brûlant soleil qui me faisait chercher l'ombre rapprochée des murs et qui chassait des rues désertes toute figure humaine, sonner tout tremblant à la petite porte du couvent de ma sœur. La porte s'ouvrit comme d'elle-même et j'entrai, sans avoir vu personne, par une allée qui débouchait dans la cour. Personne non plus. Tout le monde faisait la sieste dans les cellules. Une main de tourière assoupie m'avait apparemment tiré d'en haut le verrou de la porte grillée. J'étais heureux de cette solitude complète. Une voix m'aurait brisé le cœur. Une figure quelconque se serait interposée entre l'image de ma sœur et moi. Je regardais en liberté et en paix ces murs qui l'avaient enfermée, ces pavés qu'elle avait foulés, cette longue allée de cyprès qu'elle avait comptée si souvent en pensant à moi, cette fontaine qui bouillonnait sous le cloître et dont le murmure l'avait éveillée ou assoupie 3 ans. La cour étincelante de soleil, et dont les dalles laissaient passer de longues herbes et des giroflées jaunes entre les interstices de pierre, avait l'air d'un campo santo abandonné aux végétations incultes du midi. Le bruit de mes pas sur les pierres n'attira personne dans cette cour déserte, ne fit ouvrir aucune persienne aux fenêtres. Je ne savais à qui m'adresser pour parler à la supérieure et lui demander à visiter les restes de ma sœur et à emporter ses reliques. La tourière dormait apparemment, comme les autres habitantes de ce cloître endormi. Je m'enhardis, en attendant un mouvement ou une voix, à jeter les yeux sur la partie ouverte du cloître, sur la fontaine, sur la cour, sur les jardins que n'animait le bruit d'aucune bêche, et à faire quelques pas dans l'enclos. J'aperçus enfin à l'extrémité du cloître une grande porte entr'ouverte, c'était celle de la chapelle du monastère dont ma sœur m'avait souvent parlé. Je pensais qu'une religieuse en méditation dans la chapelle avait sans doute laissé cette porte sans la refermer derrière elle, que le bruit de mes pas l'arracherait à ses pieuses pratiques, et qu'elle viendrait m'indiquer la personne du couvent à laquelle je devais m'adresser. Je fis quelques pas sous le cloître, je trempais, en passant ma main dans l'eau du bassin qui avait tant d'années rafraîchi le front de Clotilde, J'en bus une pleine main en mémoire d'elle. Je poussai le battant de la porte et j'entrai, en faisant exprès, résonner mes pas sous le petit dôme consacré aux dévotions des recluses. Je croyais que ce bruit ferait retourner l'une d'entre elles, mais il n'y avait personne dans les bancs. Leur place était marquée par des livres de prières laissés sur la dernière étagère de leur prie-dieu. Un petit autel au fond, décoré de fleurs artificielles, plantées dans des urnes de marbre peint en or, deux ou trois tableaux de dévotion, enfermés et encadrés de bois noir contre des murailles blanchies à la chaux, une balustrade de cyprès moulée séparant le cœur du reste de l'édifice, un pavé de grandes dalles dont quelques-unes étaient sculptées en bosse avec des armoiries et des figures dont les autres ne portaient qu'une croix carrée dessinée sur la pierre avec un nom et une date en bas, voilà tout. Deux rayons de soleil tombant d'aplomb par les vitraux d'un petit dôme au-dessus de l'autel traversaient perpendiculairement le fond de l'enceinte, comme deux gerbes d'eau venaient frapper les dalles au pied de la balustrade et rejaillissaient en lumière éblouissante à mes pieds sur une de ces sculptures. C'est à cette clarté de ciel, c'est à la lueur de ce cierge éternel, comme tu l'appelles dans tes vers, que je lus le nom de Clotilde à la date de sa mort. Je me précipitai d'abord pour embrasser de mes bras ce lit de lumière où elle reposait, où le soleil semblait ainsi la chercher pour la ranimer. Ce ne fut que plus tard, et après avoir prononcé mille fois son nom, pleuré et prié sur sa tombe, que je m'aperçus d'une différence qui ne m'avait pas frappé d'abord entre cette dalle et celle qui recouvrait les autres cercueils dont la chapelle semblait pavée. Elle était de marbre, et il y avait au sommet une poignée de fleurs encore odorantes, et qui semblait souvent renouvelée. Je ne fis pas grande attention à cette distinction de culte entre les cercueils, et je restai agenouillé je ne sais combien de temps sur la dalle, les coudes appuyés sur la balustrade du cœur, et le visage noyé dans mes deux mains. Tu sais que je ne suis pas ce qu'on appelle dévot, mais quand on a sous les genoux le cercueil de l'être qu'on aima le plus en ce monde, sur la tête un rayon de soleil couchant et devant sa pensée le problème terrible de l'éternelle séparation ou de l'éternelle réunion, on ne le résout pas par le raisonnement, on le résout par le cœur, mon ami. On aime, on pleure, on se fie à son amour et à ses larmes. Tout homme alors prend malgré lui la superstition de sa tendresse. S'il ne sent rien, il ne croit rien, s'il sent tout, il croit tout. J'étais anéanti dans la vision de l'immortalité où je revoyais ma sœur, comme si elle eût fait partie de ses rayons. Je lui parlais comme si elle m'avait répondu dans cet écho de ma respiration, dans ce vide de marbre sonore. Combien de minutes ou d'heures s'écoulèrent ainsi, je ne le sais pas. Je crois que j'y serai encore sans ce que je vais te dire. Mais, grand Dieu, je n'ai pas commencé et voilà un volume. Que vas-tu penser de ma loquacité? Pense tout ce que tu voudras, il faut que je retrace pour moi, sinon pour toi, cette heure autour de laquelle, dès aujourd'hui et pour jamais, vont graviter toutes les heures qui me restent à vivre. J'entendis un léger gémissement de gond à la porte. Je crus que c'était le vent de l'Ave Maria qui se lève au soleil couchant et qui fait battre les volets dans la solitude des rues de Rome. Je ne me retournai pas. J'entendis un frôlement d'étoffe contre le mur. Je crus que c'était les plis d'un des rideaux des fenêtres qui balayaient les vitres. Je ne relevai pas la tête. J'entendis des pieds légers mais lents et mesurés qui semblaient s'avancer en hésitant vers le banc de bois dont la planche supérieure, celle où l'on joint les mains, cachait sans doute à la personne qui venait prier ma tête inclinée plus bas sur la balustrade du cœur. Je passai mes doigts sur mes yeux. Pour y faire rentrer mes larmes, j'écartai mes cheveux qui me couvraient le front et je me levai en retournant mon visage vers la porte du côté où j'avais cru entendre les pas. Ah, mon ami, ce ne fut qu'un éclair, une vision, une hallucination, tout ce que tu voudras, mais je vivrai mille et mille années et je tiendrai le pinceau de Raphaël, le ciseau de Canova, le clavier de Rossini, la plume de Pétrarque, et j'écrirai, je chanterai, je peindrai, je sculpterai ma pensée pendant des milliers d'heures, que je n'essaierai pas d'égaler jamais ce que je vis dans ce rayon. Une jeune figure d'environ 16 ans, toute vêtue de noir, comme un cyprès qui sort d'un pavé de marbre, grand, souple, élancé sur sa base, les épaules transparentes à travers un filet de sombre dentelle, les bras arrondis, la taille ondulée et déjà demi-pleine, faisait éclater l'enveloppe de soie qui se collait aux lignes de son corps, comme le tissu de lierre déchiré çà et là par la blancheur du marbre qui se colle aux genoux et aux hanches d'une statue dans le jardin Pamphili, la tête un peu inclinée, les mains jointes par ses doigts entrelacés sur ses genoux, autour d'un de ces gros bouquets de toutes nuances que les paysannes d'Albana viennent vendre à Rome, et qu'elle natte en mosaïque de fleurs, des cheveux rattachés en deux ou trois grosses boucles sur sa tête par de longues épingles semblables à des stylets à manches de perles. Ses cheveux blonds frappés du soleil rejaillissaient aux yeux en véritables éblouissements métalliques de gerbes d'or. Quant au visage, je ne sais pas. J'effacerai autant de mots que j'en écrirai pour peindre l'inexprimable. D'ailleurs, il y avait autour de tous les traits, de toutes les lignes, de toutes les teintes de la peau, de toutes les expressions de la physionomie, une atmosphère et comme un rejaillissement d'âme, de jeunesse, de vie, de splendeur, tel qu'on ne voyait pas ses traits, ou qu'on ne les voyait qu'à travers un éblouissement comme on ne voit le fer rouge qu'à travers sa vapeur ignée dans la fournaise. Ce visage transpercé de part en part par la lumière, tant la carnation en est limpide, se confondait si complètement avec les rayons par la transparence et la couleur blanche et rose du front et des joues, qu'on ne pouvait dire ce qui était du soleil et ce qui était de la femme, où commençait, où finissait le rayon du ciel et de la créature céleste. C'était, si tu veux, une incarnation de la lumière, une transfiguration des rayons du soleil en visage de femme, une ombre de visage entrevue au fond d'un arc-en-ciel de feu. Mais, bah, efface tout cela ou ne le lis pas, c'était ce que tu as rêvé peut-être dans l'heure la plus amoureuse de tes inspirations pour fondre d'un regard un cœur insensible dans un cœur d'homme. Ce que tu n'as jamais pu dire, ce que Raphaël a entrevu dans ses dernières retouches, quand il devenait plus homme et moins mystique, un visage entre la Vierge et la Fornarina, divin par la beauté, féminin par l'amour, de ses yeux qui, s'ils vous regardaient jamais, attirerait sur votre âme tout entière, sur vos yeux et vos lèvres, et la consumerait dans un éclair. Efface encore, ce n'est pas cela, car l'éclair foudroie et ce visage enlève et attire. Ce n'est pas la foudre, non, c'est plutôt l'évaporation soudaine de l'âme vers la divinité de l'attrait. Tiens, je brise ma plume, je maudis les mots, ce n'est rien de tout cela. C'est tout cela, et puis encore, après tout cela, c'est elle. Prends que je n'ai rien dit. J'eus le temps, si le temps existe devant une pareille apparition, et je crois que non. Mais enfin, j'eus ce qu'on appelle le temps de regarder de tous mes yeux extérieurs et intérieurs la ravissante figure qui s'avançait nonchalamment, les bras pendants, les regards baissés sur le pavé de la chapelle. Les statues de pierre qui étaient dans les niches derrière l'autel n'étaient pas plus de pierre que moi. Je ne crois pas que ma respiration eût soulevé une fois mon sein depuis que mon regard était attaché sur elle. J'aurais voulu qu'elle avançât toujours et n'approchât jamais. Il me semblait qu'elle portait ma vie et que le premier cri, le premier geste, allait faire tout disparaître et la briser dans sa fuite. Soit qu'elle fût trop absorbée dans sa pensée, soit que le rayon qui tombait d'aplomb du dôme à jour du petit cloître et qui rejaillissait sur l'or et sur le marbre de l'autel éblouît ses yeux, elle ne me voyait pas encore, bien qu'elle ne fût plus qu'à 6 pas de moi. Sans relever la tête, arrivée au bord de la pierre du tombeau de ma sœur, elle s'agenouilla. Elle déposa doucement le gros bouquet qu'elle portait dans ses mains sur le marbre, comme si elle n'eût craint que le bruit de ses feuilles de rose posées sur un cercueil ne réveillât la morte endormie. Puis elle resta un moment immobile et en silence, regardant la pierre et remuant légèrement ses lèvres, où je crus saisir le nom de notre chère Clotilde. Je ne puis te dire ce qui se passa en moi en voyant que je ne sais quelle parenté funèbre existait entre cette âme revêtue d'un corps céleste et la mienne, et qu'avant de nous être entrevus, un sentiment commun nous unissait dans ce culte de ma sœur. Serait-ce, me dirais-je en moi-même, cette Regina dont Clotilde fut si aimée? Mais Clotilde m'avait écrit, peu de temps avant sa mort, qu'elle avait perdu sa Regina et qu'elle allait se marier avant peu au prince. Or, la charmante figure n'avait rien du costume d'une femme. Ses cheveux nus, sa robe noire, nouée sans aucun ornement autour du cou, était le costume en usage aux jeunes filles romaines. ce ne pouvait être Regina. Au moment où je me demandais ainsi « Qui peut-elle être ?», elle se releva sur un genou en relevant aussi la tête pour saluer l'autel avant de se retirer. Elle m'aperçut. Elle ne jeta point de cri, ses yeux restèrent fixes, ses lèvres entr'ouvertes, ses bras tendus vers moi comme ceux d'une somnambule. La pâleur du marbre se répandit sur ses traits, ses bras retombèrent le long de son corps, sa tête s'inclina, ses jambes fléchirent, et elle glissa sur ses genoux, assise la main gauche appuyée sur la pierre de Clotilde, pour se soutenir, et continuant à me regarder. Je m'élançai et je la soutins dans mes bras. Que te dirais-je de ce qui se passa en moi quand je sentis le poids léger de cette femme, non évanouie mais affaissée sur mon cœur? Je n'eus que le temps de l'emporter vers le grand air, ce ne fut qu'un éblouissement. Elle reprit à l'instant la couleur, le mouvement, la parole. Elle se dégagea, sans colère et sans brusque soubresaut de mes bras, comme si elle s'y était sentie à sa place. Elle regarda la pierre de Clotilde, puis moi, puis la pierre encore, puis moi de nouveau. On eût dit d'un peintre qui confronte un modèle avec un portrait, puis, tout à coup, s'élançant du cœur, des yeux et du geste vers mon visage. « Oh Clotilde, c'est lui, car c'est toi, » dit-elle. Puis, avec une volubilité enfantine et balbutiante, « N'est-ce pas, monsieur, que vous êtes bien lui ? Eh bien, moi, je suis elle, je suis Regina, je suis son amie, sa sœur, sa fille sur la terre. Vous le voyez, je vis encore d'elle, avec elle et pour elle. Quand je cueille deux fleurs, il y en a une pour mes cheveux et une pour son cercueil. Est-ce que vous ne me reconnaissez pas comme je vous ai tout de suite reconnu, vous ? Mais vous ne m'avez pas fait peur, oh non ! Son fantôme ne m'effraierait pas. Je me sens aussi tranquille à présent et aussi accoutumée avec vous que si vous étiez mon frère et moi votre sœur. Oh, quel nom, mademoiselle, m'écriai-je, vous me permettez là de vous donner, frère, sœur, ami. Appelez-moi Regina de grâce, me dit-elle en joignant ses deux mains, comme pour me supplier, je croirais mieux que c'est Clotilde. Elle ne m'appelait pas mademoiselle, elle. Moi, je ne vous dirai plus monsieur, mais je vous appellerai Salus. Oh, Regina, lui dis-je, en l'asseyant sur un des bancs du cloître et en tombant à mon tour à genoux devant elle. « Quoi, c'est vous qui m'attendiez à la place de ma sœur ?»« Oh, je ne vous attendais pas, je vous invoquais, » reprit-elle en me prenant les mains dans les siennes avec cette confiance naïve d'un enfant qui n'hésite jamais entre une décence et un premier mouvement. « Oui, vous ne savez pas, mais elle le sait, elle, » en montrant d'un doigt étendu la pierre funèbre. « Je vous invoquais tous les jours, là, sur cette pierre. Je disais à Clotilde, « Si tu veux que je vive, renvoie-moi ton image et ton cœur dans l'image et le cœur de ce frère que tu aimais tant, qui te ressemblait tant. » Et elle me répondait, ajouta-t-elle, avec un geste d'affirmation surhumain, « Oui. » Elle me répondait, « Quelque chose me disait qu'elle ressusciterait pour moi en vous et que de son tombeau, là, comme vous êtes sorti, sortirait son image et son amitié pour moi, sous les traits et sous le nom de son cher Salus. Est-ce vrai ? Me trompait-elle en me le promettant ? Serez-vous un ami comme elle était pour moi ? Oh, c'est maintenant moi qui crois au miracle, Regina, m'écriai-je, un ami, un frère, un... Taisez-vous, me dit-elle, en mettant un doigt sur ses lèvres, et en couvrant sa physionomie rayonnante d'un voile qui sembla tout éteindre sur ses traits. Je suis mariée, je suis princesse. Ils le disent du moins dans Rome, mais mon cœur ne me le dit pas. Depuis Clotilde, je ne l'ai donné à personne, je l'ai gardé à moi toute seule, voyez-vous, pour le rendre à celui seul pour qui elle le voulait. C'est elle qui vous a dit de venir, enfin, n'est-ce pas ? Enfin, mille choses vives, naïves, enfantines, étourdies, soudaines, inattendues, enivrantes, qu'une jeune fille de ton côté des Alpes ne dirait pas en 10 mois, quand même elle les penserait. C'est moi qui étais interdit. C'est elle qui me rassurait, qui me suppliait, qui me familiarisait avec elle, comme si j'avais été simplement une sœur retrouvée, une sœur plus âgée qu'elle et devant laquelle elle aurait eu à la fois les élans de la tendresse et les puérilités de l'enfance. Et tout cela sortait d'un regard où le ciel étincelait sur une rosée de larmes de joie, d'un cœur que je voyais battre sous sa légère robe de soie et dont les battements m'auraient compté, sans que je les sentisse, les heures de l'éternité. Oh, je m'arrête. Je ne puis plus écrire, je ne puis couvrir ma fenêtre, lever les yeux vers ces étoiles d'où ma sœur m'a envoyé ce divin rayon sur ma vie, et regarder couler le Tibre, qui n'a jamais emporté un pareil éblouissement des yeux d'un mortel dans le scintillement de ses flots. Je te dirai une autre fois ce que je répondis. Post-scriptum, il suffit que tu saches que cette conversation dans le jardin du cloître, les yeux sur la tombe de son ami et de ma sœur, dans ce silence lumineux du milieu du jour, dura sans être interrompue jusqu'à l'Ave Maria que sa nourrice, qui la cherchait vainement dans les jardins, vint enfin la trouver assise à côté de moi sur le banc, qu'elle me mena en bondissant vers cette femme qu'il adore, en me poussant dans ses bras, en battant des mains et en lui criant « C'est lui !» qu'elle me présenta à sa grand-mère infirme, par qui je fus accueilli comme un fils, qu'elle me mena dans la cellule de ma pauvre sœur, devenue aujourd'hui la sienne et toute tapissée de ses souvenirs, qu'elle se jeta à genoux devant un portrait de Clotilde suspendu au pied de son lit, et qu'elle lui dit en le voilant, « Je n'ai plus besoin de toi, j'ai ton image vivante. Il est là, j'y suis. Regarde-nous, nous allons nous aimer comme autrefois en ton nom. » Qu'enfin elle me raconta, avec des larmes de dépit et un air d'incrédulité, son mariage, qui ne paraissait pas l'alarmer sérieusement sur son avenir, que je passais la soirée entre la grand-mère, la nourrice et elle, dans le jardin du couvent et sur la terrasse, à parler de Clotilde, que la porte du couvent me sera ouverte tous les jours pour aller librement m'entretenir de ma sœur, que je fais partie de la famille, comme si leur chère Clotilde avait véritablement ressuscité en moi pour elle, que j'ai les yeux éblouis, l'âme ivre, le cœur noyé de sensations, que j'ai plus vécu dans cette soirée que dans les 23 années de ma vie, et que si Dieu me disait de choisir entre un siècle à mon choix sans elle, et la minute où j'ai vu Régina s'avancer, le bouquet funèbre à la main, vers la pierre de ma sœur, puis relever son visage vers moi dans un rayon de soleil, je n'hésiterai pas, mon ami, je prendrai la minute. Elle contient plus de délire qu'une éternité. Adieu, adieu, adieu. Deuxième lettre, Rome. Garde-moi ces lettres, elles me seront une trace de ma vie, qui court maintenant si vite, si nous nous revoyons jamais. Depuis que je t'ai écrit ma rencontre avec l'ami de Clotilde, nous nous voyons tous les jours deux fois. Le matin, quand tout repose, pendant la sieste de midi, dans la langara, je passe à une heure convenue sous les fenêtres d'une petite aile déserte du couvent au-dessus de la porte. Il y a là un belvédère à jour, dont le temps a dégradé une partie du treillis de bois qui empêchait autrefois les novices d'être aperçues des passants quand elles respiraient le frais. Regina, qui y vient seule et librement par le corridor de sa cellule, a élargi un peu avec ses belles mains la brèche du treillis. Elle en a fait une véritable petite lucarne où elle passe à demi sa tête, tout encadrée des lierres et des liserons entrelacés au treillage. Elle connaît mon pas dans la rue, elle passe son bras par l'ouverture et laisse tomber une poignée de fleurs ou seulement une feuille sèche, un grain de sable sur ma tête. Je m'arrête, elle regarde si j'ai ramassé, je passe de l'autre côté de la rue, je distingue ses beaux yeux ouverts, semblables à deux urnes bleues. De plus, dans la tapisserie des fleurs grimpantes, j'entrevois ses cheveux dorés comme les filaments d'une fleur inconnue. Nous nous regardons, immobiles, en remuant seulement les lèvres, pleines de mots muets, de confidences et de sourires emportés par le vent. Nous restons ainsi jusqu'à ce qu'une persienne importune vienne à s'ouvrir dans la façade de quelque maison voisine, ou jusqu'à ce que j'entende le pas rare d'un passant retentir à une des extrémités de la rue. Alors elle se retire, je continue mon chemin, et je rentre dans le palais de mon père avec une provision d'ivresse pour tout le jour. Le soir, à l'heure où les Romains sortent en calèche pour les théâtres, le corso, les conversazioni, où je ne vais plus, je suis admis par la tourière, comme un parent de la famille, dans l'appartement de la princesse qui ne subit qu'à moitié les règles claustrales. Je trouve Regina qui m'attend sous le cloître, auprès de la fontaine, je lui baise les mains avec le respect d'un étranger pour une femme et avec la douce familiarité d'un frère. Elle me conduit au pied du canapé de sa grand-mère, nous causons en paix et en pleine liberté devant cette femme âgée qui semble rajeunir à nos folles joies d'enfants heureux. Seulement, elle jette quelquefois un long regard de tristesse sur Regina et sur moi, puis elle regarde à la pendule et semble penser, sans nous le dire, « Combien de temps durera ce bonheur? Combien y a-t-il d'heures dans 2 ans? Car c'est dans 2 ans que le prince doit lui enlever sa petite fille devenue sa femme. » Quand Regina s'aperçoit de cette inquiétude et devine la pensée de sa grand-mère, elle se lève sur la pointe des pieds et arrête l'aiguille sur le cadran en regardant la comtesse Livia. « Non, non, dit-elle avec cette charmante moue italienne des lèvres d'enfant, non, grand-mère, ne pensez pas à cela. Je vous dis que cela ne viendra jamais. Ce vilain prince, ne m'en parlez pas, il me fait haïr mon nom. Je suis Regina, je ne suis pas sa princesse. Je ne la serai pas. Je me moque de ses sbires, mon cœur est à moi, je le donnerai à qui je veux. » Et elle me regarde d'un air d'intelligence et en souriant, comme si, en effet, en arrêtant l'aiguille, la capricieuse avait arrêté le temps. Il manque ici 7 ou 8 lettres de Salus, dans lesquelles il me racontait les scènes monotones de son bonheur et les développements de la passion des 2 amants. 10e lettre. Rome. Tu connais la Villa Pamphili. Tu te souviens peut-être qu'un jour nous y allâmes ensemble au mois d'avril et qu'en regardant au bout des grands pins la pente de gazon qui descend vers la chaumière et qui se termine dans la plaine voilée de brume, que transpercent seulement les arches jaunes de travertin des aqueducs en ruine, tu me disais « C'est trop beau pour l'homme, il n'y a que l'amour qui soit digne d'habiter là. » Eh bien, prophète, cela n'est pas trop beau, l'amour y est venu et il a 1000 fois encore embelli ces scènes mélancoliques de la ville que tu appelais le jardin de l'infini. Nous y venons souvent à la chute du soleil dans la Méditerranée, pendant que les Romains et les étrangers courent au corso entre 2 murs qui se renvoient la poussière. Comme la princesse est censée habiter le couvent, la comtesse Livia ne la promène que dans les lieux déserts, à Albano, à Tivoli, à Frascati, au jardin de Dioclétien, au tombeau de Cecilia Matella, dans la campagne de la Sabine, ici, partout où il n'y a qu'elle et moi. Comme je suis peu connue à Rome, je passe, quand on nous rencontre, pour un neveu de la comtesse Livia, venue de Sicile, pour servir de bras à sa tante. Mes cheveux noirs et mes traits du midi rendent la version vraisemblable. Ce soir donc, nous avons laissé la vieille comtesse et la nourrice dans la calèche, sur le boulingrin de l'entrée de la villa, et nous nous sommes enfoncés, comme à l'ordinaire, Regina et moi, dans les longues allées de lauriers qui descendent à perte de vue du plateau de la ville vers la vallée. Nous étions à cette heure que les Italiens trouvent dangereuse, les seuls habitants de ces vastes salles de verdure. Les longues murailles d'ombrage que forment les haies épaisses des lauriers taillés, les coudes des allées, les statues, les conques, les perspectives de marbre qui en interrompent de distance en distance l'uniformité, nous dérobaient à tous les regards. Nous étions plongés dans cet isolement et dans cette sécurité du bonheur qui fait croire que 2 êtres qui s'aiment sont les seules créatures animées, les seuls points sensibles de toute la nature. Nous nous hâtions d'avancer le plus loin possible dans ces labyrinthes pour qu'aucun autre œil que les yeux du firmament, ces étoiles qui allaient se lever, ne pussent tomber sur nous. Regina cueillait dans les gazons des fleurs d'automne et venait me les confier en gerbe pour les rapporter à la voiture et pour en embaumer le soir la terrasse de sa chambre. Mes mains en étaient embarrassées. Elle courait devant moi. Elle faisait envoler les merles déjà endormis qui traversaient les allées en sifflant et en rasant ses mains étendues de leurs ailes bleues. Les teintes roses des vapeurs du soir qui flottaient sur l'horizon du côté de la mer se réverbéraient sur son front, sur son cou, sur ses mains, comme un phare céleste versé du haut du ciel sur la plus divine forme de la nature. Ses cheveux qu'elle relevait et qui se dénouaient sans cesse par la course retombait en tresses trempées de rosée sur sa joue et sur ses épaules. On eût dit qu'elle sortait d'un de ces bains de Diane, dont les ondes murmuraient dans les canaux à ses pieds. Jamais encore je ne l'avais vue si belle, et jamais sans doute ses jardins n'avaient été foulés par une plus radieuse image de la joie, de la jeunesse et de l'amour. Je ne comprenais pas, en la regardant, que la douleur osa jamais jeter son ombre sur un pareil front. Elle me semblait inviolable au malheur comme à la mort. Quand elle était lasse, elle se suspendait par ses 2 mains à mon bras déjà chargé de ses fleurs, et s'est appuyée en exagérant le poids léger de son corps pour me faire mieux sentir qu'elle était là et pour sentir mieux elle-même l'appui que je lui prêtais. Elle s'amusait à traîner par moments ses pas comme si elle eût été trop essoufflée pour marcher si vite, puis tout à coup elle abandonnait mon bras avec des éclats de doux rire et des défis de l'atteindre et s'élançait en bondissant devant moi sur le sable des allées. Puis elle se laissait dépasser et me priait alors en feignant de bouder de l'attendre. Puis elle se rapprochait, les mains jointes sur sa robe, dans l'attitude de la langueur qui rêve, en me regardant et en paraissant rouler quelque image importune dans sa pensée. Puis elle relevait et secouait tout à coup la tête dans un mouvement de fougue et d'impatience et s'écriait « Non, je ne veux pas y penser, Salus, nous avons 2 ans ainsi devant nous. » « Mais comprends-tu, lui disais-je, ce que sera pour nous la vie séparée l'un de l'autre, après 2 ans de cette félicité surhumaine ?»« Il y a une Clotilde au ciel, me répondait-elle alors en me montrant du doigt levé, une des étoiles qu'on commençait à voir poindre dans le firmament, entre les larges parasols verts des pins d'Italie. Celle qui nous a réunis saura bien nous protéger encore. Penses-tu à ce que doit être pour moi la solitude du palais de mon père ?» Après des soirées passées toutes ainsi? Oh, pourquoi, si Clotilde devait protéger cet amour, a-t-elle laissé s'interposer entre son ami et son frère l'ombre menaçante de cet homme qui réclamera un jour, au nom de la loi, ce que le cœur et la volonté ne lui ont jamais donné? Le prince, en ce moment, n'habite pas Rome. Il voyage en Angleterre et en Amérique pour étudier les améliorations agricoles à introduire dans ces domaines de l'État romain. 13e lettre. Rome. Les jours et les mois passent et rien n'a changé dans ma félicité. Voilà pourquoi je ne t'écris que si rarement, j'ai peur de t'ennuyer de bonheur. J'habite depuis quelques semaines la même maison que Regina et sa grand-mère à Tivoli. Les médecins ont conseillé à la comtesse Livia de respirer, pour se fortifier, l'air pur et vif des collines. Elle a loué pour quelques jours le palais à Tivoli. Elle m'a permis de louer moi-même un petit appartement au-dessus du sien dans le même palais. De ma fenêtre, je vois le balcon de Regina, où sa grand-mère s'assoit à l'ombre tout le jour, dès que le soleil a tourné l'angle du palais. Tu connais Tivoli. Nous sommes sur le dernier gradin de la colline, dominant le temple de la Sibylle. Les grottes, les cascatelles et cette vallée d'où le murmure et la fumée des eaux s'élèvent confondus avec les arcs-en-ciel tournoyant dans les vapeurs. Avions-nous besoin de ce vertige de plus pour donner le vertige éternel à nos âmes? Je vois d'ici le plateau opposé de l'autre côté de la vallée des eaux, avec les chênes verts, les roches grises entrelacées de figuiers, et l'ermitage des franciscains qui fut autrefois la maison d'Horace, et où tu écrivis un jour tes premiers vers. Ce souvenir de toi, au milieu de mon bonheur, le complète. Je me figure que tu es encore là, me regardant et te réjouissant avec moi de ce que la fortune m'a donné pour théâtre de mon amour un des plus divins séjours de la terre. Quand l'âme est pleine, elle a besoin de se répandre autour d'elle, dans une nature aussi splendide que ses pensées. La nature est la décoration de la vie. Vie plus heureuse, décoration plus belle jamais. 14e lettre. Rome. Le bonheur était trop complet pour être durable. C'est à pitié maintenant qu'il me faut. La comtesse Livia a reçu du gouvernement l'ordre de rentrer à Rome, d'observer la vie cloîtrée du couvent avec sa petite fille, ou de la laisser seule au couvent jusqu'au retour du prince, qui réclamera sa femme. Cela vient des amis du prince qui ont été informés et qui se sont plaints des assiduités d'un étranger dans la famille. Les ordres de police ici sont absolus. Il a fallu obéir. La comtesse a quitté Tivoli, elle est rentrée dans son palais à Rome, afin d'avoir la liberté de réclamer et de faire agir ses amis auprès du gouvernement. Regina est enfermée seule avec la nourrice dans l'enceinte du couvent. Je suis partie ostensiblement pour Florence, d'après ses conseils, pour enlever tout prétexte d'accusation et de réclusion contre Regina et la comtesse. Mais, arrivée à Terni, j'ai fait poursuivre de nuit à ma calèche la route de Florence. Un jeune Napolitain de mes amis qui va à Paris y a pris ma place. Je suis revenue seule et sous un autre nom à Rome. Je ne suis pas rentrée dans la ville pour que mon palais vide trompât la surveillance du gouvernement. Je vis cachée dans une maison de jardinier, hors des murs du côté de Saint-Paul, sur un chemin de traverse, chez le frère de la nourrice de Regina. J'ai une chambre dont la fenêtre ouvre sur la campagne et qui me permet de jouir de la vue du verger, des prairies, sans être aperçu du chemin. J'ai des livres, du papier, des armes. Je ne sors que la nuit, enveloppée dans un de ces grands manteaux bruns qui recouvrent les paysans romains, avec un chapeau de large feutre sur la tête. On me confond à la porte de Rome avec les marchands de bœufs de la Sabine ou avec les vignerons de Velletri. J'entre et je sors sans soupçon pour aller me glisser sous les murs de la Langara. À un signal de mes souliers ferrés sur le pavé, un flambeau brille à travers le treillis de bois. Une main passe, un fil armé d'un crochet de plomb descend contre le mur. J'y prends un billet de Regina. J'y suspends un billet de moi. J'entends un soupir ou mon nom prononcé à voix basse. Je couvre de baisers le papier avant de le laisser remonter. Je m'éloigne au moindre bruit, j'emporte mon trésor. Je le lis à la clarté de la lune ou des lampes qui brûlent dans les niches des madones. Je ressors par une autre porte de Rome. Je regagne à travers les champs mon asile. Je passe la nuit et le jour à relire, à étudier, à interpréter les lettres de Regina. Le prince, dit-elle, est en route pour revenir en Italie. Sa grand-mère passe sa vie dans les transes et dans les larmes. Elle est décidée à protester contre le consentement imprévu qu'elle a donné à cette union sous l'empire de la domination et de la peur. Elle se prêtera à tout pour empêcher le malheur et l'enlèvement de sa petite fille. Elle a mis dans ses intérêts, à force d'argent et de supplications, une partie de la famille et des personnes influentes dans le gouvernement. L'opinion est partagée. Elle plaidera, elle se jettera aux pieds du cardinal. Elle a pris en horreur le tuteur de Regina et le prince. Regina jure dans toutes ses lettres qu'elle se réfugierait plutôt dans la tombe de Clotilde que de se laisser livrer à un homme que son cœur repousse et que de reprendre une vie qu'elle m'a donnée avant même de m'avoir connue. Les choses en sont là, elles ne peuvent durer longtemps ainsi. Oh, que n'es-tu là pour me conseiller et pour m'entraîner peut-être, je sens que je vais jouer mille fois plus que ma vie. La vie et la réputation de Regina, mais je n'ai pour conseil que le délire dont je suis nuit et jour possédée. Ah, il vient des jours où le délire est la seule inspiration possible. Je t'écrirai avant peu de jours si je suis encore libre ou vivant.